Bonjour et bienvenue au podcast de Nouvelle Acropole Montréal. Aujourd'hui, je reçois comme invité Pierre Lemasson qui va venir nous parler un peu de son expérience, mais aussi de la série qui est en cours présentement, celle sur Réinvente ton destin, qui met en valeur les clés d'interprétation ou de vision de l'être humain selon les astres et selon la philosophie. Bonne écoute!
Bonjour Pierre.
Bonjour Michel, ça va bien?
Ça va bien toi aussi. Bienvenue à cette entrevue que je veux surtout qu'il soit convivial, qu'on discute là comme si on a des questions qui nous viennent sur le thème où je veux aller, c'est Réinvente ton destin, qui est une série qui est d'ateliers en cours en ce moment. Mais j'aimerais d'abord que tu me parles un peu de toi, en fait, sur... d'où tu viens, qui tu es un peu là, comme philosophe à Nouvelle Acropole. Comment tu en es arrivé là? Depuis combien de temps que tu es là? Et puis avant, c'est quoi un peu ton parcours là, pour qu'on apprenne à connaître un peu? Là.
Bon. combien de temps tu me donnes pour le parcours?
Non. Dis les grandes lignes.
Les grandes lignes.
Qu'est-ce qui peut être inspirant?
L'intérêt. Déjà, je pense que. Tout, on se dit philosophe aujourd'hui parce que bon, on met en pratique une philosophie prête, c'est appliqué. Mais déjà cet esprit philosophique, je pense qu'il était là dans ma jeunesse et j'avais un intérêt pour les grandes questions, même très jeune. Je me souviens, ça me vient à l'esprit. Quand j'étais en secondaire 5, il fallait qu'on fasse un travail, on apprenait à faire les thèses, là, l'écriture d'une thèse. Et puis, en fait, c'était secondaire 4. Et il fallait choisir un sujet, ou qu'on allait faire des recherches à la bibliothèque, approfondies, puis prouver la thèse, l'antithèse et la synthèse, et puis bon, un exercice. Enfin, moi, j'avais pris ça au sérieux. Je me disais, waouh, je vais apprendre à écrire. Une façon d'argumenter et tout ça. Puis je me suis dit, quel sujet vraiment est important, le plus important? Puis je me suis dit, la mort. Ça, c'est vraiment un sujet fascinant.
Ah oui, c'est un bon, une grande question.
Une grande question, mais justement, c'est une question philosophique. Alors, je suis allé commencer à la bibliothèque, chercher toutes sortes de sources, et puis je tombais sur plein de philosophies, les philosophes. Puis là, waouh, c'est incroyable les débats qui pouvaient exister du côté religieux, philosophie générale, spiritualité, etc. Et finalement, bon, pour garder ça court, le titre de mon document, qui a eu un A++, c'était « Mort, un simple passage ».
Wow!
la mort, un simple passage.
Tu avais quel âge à ce moment-là?
C'est ça, c'est... Bon, là, je fais un calcul. On était en 78, donc j'avais, voyons, 14 ans.
Quand même, c'est une grande question pour quelqu'un de 14 ans.
C'est
comme,
ça. 76-77, plutôt. Okay. J'avais 14 ans quand je pensais ça. Mais c'était des questions. C'était, bon, déjà dans ma jeunesse, j'avais un intérêt pour tout, les mathématiques, etc. Même... cette même année-là, je construisais un télescope Newton, là, 8 pouces de diamètre, le miroir. Puis pour faire ça, bien, il fallait qu'on le fasse.
Ah, t'as fait le miroir aussi.
La friction avec l'humain, nous-mêmes.
J'ai déjà essayé.
80 heures de friction. Mais je faisais ça avec mon frère, donc on s'encourageait l'un l'autre.
Ah, c'est du gros
et
travail.
Puis, tu sais, tous les abrasifs jusqu'au plus fin. Là, bon. Puis après, l'aluminiser. Ça a marché, c'est un super beau télescope Newton. Okay. Et donc, un intérêt pour l'astronomie, c'est pour le ciel, pour le cosmos. On n'avait pas encore le télescope Hubble dans l'espace dans ce temps-là. Hein. C'était dans les années 70, donc il fallait qu'on se donne nos propres outils pour voir de quoi avait l'air ce monde, ce mystère. Et donc, oui, c'est de là que je viens. Mais vu que je suis aussi dans une famille militaire, mon père était dans l'aviation en France, donc je suis rentré dans le militaire, collège militaire, j'ai étudié en génie physique, Et puis, on pourrait penser, ingénieur physique, OK, c'est très pratique, c'est très concret, mais en fait, moi, c'était plutôt encore le cosmos,
Les étoiles.
les équations qui expliquent la réalité, puis qui font justement, depuis le très petit, des quarks, la mécanique quantique jusqu'aux étoiles. C'était, j'avais la passion de trouver la magie qui reliait tout cela.
Wow.
Et quand j'utilisais ce mot en classe, j'étais tout simplement mis à la porte de la classe.
Le mot magie,
Oui,
tu veux dire?
ah oui, ils ne
Oh.
voulaient pas entendre parler de ça. Puis je disais,
Wow.
mais c'est magique ce que vous me montrez au tableau, les équations, c'est incroyable comment tout est relié, il y a des lois dans l'univers. Bon, alors voilà, j'étais un passionné, un enthousiaste. Et c'est resté avec moi, même après 10 ans dans le militaire, vous vous rendez compte.
Donc, c'était la naissance du philosophe, ben, ou qui était
C'est
là
ça.
depuis le début, hein, en fait.
Mais bon, je vais passer des étapes. C'était aussi, pendant que j'étais aux études en génie physique, je me suis intéressé à l'astrologie, entre autres.
Ouais.
Mais en fait, j'ai commencé dans mes cours de littérature anglaise à analyser les types de caractères des personnages, puis me rendre compte on pouvait toujours faire des types, puis que c'était des mises en scène, comme dans un directeur de théâtre qui décide, comment il va faire jouer ses acteurs pour représenter comment la vie se passe dans le monde. Et finalement, tous ces types psychologiques, je me suis inventé un système, puis j'ai commencé à observer tout le monde autour de moi, puis j'étais arrivé avec 4 éléments de base, et là, on m'a dit, mais ce que tu décris, on trouve ça en astrologie, c'est les 4 éléments, eau, terre, air, feu. Je dis, ah ouais, moi je suis un physiciste.
Un physicien ouais,
Donc
de formation.
on va pas. L'astrologie, je sais pas, vraiment, c'était ridicule pour moi. Alors je commence à faire ma carte du ciel, utilisant les éphémérides officielles de la NASA. Bon, OK, je calcule ça, puis c'était plus ou moins ça. Ça ne correspondait pas à ce qu'on trouvait. Quand on nous disait qu'on pouvait faire notre carte du ciel dans ce sens-là, on faisait tous les calculs à la main, il n'y avait pas l'ordinateur. Puis ça donnait 2 résultats. Donc, raison de plus, ça ne marche pas. Pourtant, j'ai utilisé les bonnes données scientifiques. Mais c'est
Oui.
là que j'ai découvert qu'il y a 2 sortes d'éphémérides. Celle de l'astrologie qui nous intéresse en tant qu'être humain, c'est celle qui est reliée aux saisons,
OK.
qui commence avec son cycle, le premier jour du printemps.
Ouais.
Et donc ça, c'était un peu une compréhension, une découverte, et ça rentrait avec mon modèle psychologique des gens que j'avais trouvé. Et puis là, j'ai commencé à faire des cartes de plusieurs personnes, et puis, waouh, j'en revenais pas. C'est
Okay.
que,
Comment que c'était pertinent ou
pertinent, cohérent, puis que la carte m'aidait en plus, bien plus rapidement à lire la typologie des gens. C'était confirmé. Et bon, mais c'est juste pour dire que finalement, ma pratique d'intérêt dans l'astrologie date d'au moins 30 ans.
Okay, c'est pas dire depuis, tu as fait, tu as
C'est jamais tout
continué
fait,
à
c'est ça.
apprendre, à développer cet
C'est ça,
intérêt-là.
différents niveaux, différentes précisions. Intéressé surtout dans la dimension humaniste
OK.
qui relie, comment dire, plutôt les rythmes à plus long terme, qui nous permet de lire l'histoire de l'humanité. Parce que c'est là que ça devient intéressant de voir qu'on sait qu'il y a des civilisations, puis qu'il y a des grands mouvements, comme la Renaissance, par exemple, il y a 500 ans,
Ouais.
ou des événements importants, comme le début des démocraties, ou à la fin du 18e siècle, et puis, en tout cas, des mouvements plus humanistes à la fin du 19e siècle, et tout ça. Puis ça correspond à la découverte de planètes, Uranus, Neptune.
Il y a un
Puis là,
lien, en fond, entre les grands mouvements
ouais,
de civilisation et la découverte des
c'est
planètes.
ça. Puis même Pluton, on l'a découvert dans les années 30, et puis c'était avec la découverte de l'énergie atomique. Et
Ouais, c'est vraiment
le
intéressant.
sens de ces planètes correspond en plus à ces grands mouvements. C'est comme si
Wow.
l'humanité était prête
T'es prêt à avoir une nouvelle connaissance et puis en même temps on découvre
un petit
dans les
point
heures.
qui à peine perceptible dans le ciel, qui de toute façon était invisible pour les ancêtres d'il y a 2000 ans. Ouais. Alors, c'est intéressant, c'est des anecdotes, ça.
Ben
On pourra
ouais.
parler beaucoup plus.
Ben c'est ça, c'est l'idée, ça nous met un peu la table. Et puis au travers de ça, tu rencontres Nouvelle Acropole. Il y a quand
Ouais,
même plusieurs années.
ben, c'est ça, c'était en 1990. Justement, j'étais intéressé, comme vous le savez, par la psychologie. Donc, et puis là, il y avait une affiche. J'arrivais à Montréal parce que j'étais 5 ans en Nouvelle-Écosse dans le militaire. Là, j'avais quitté le militaire, c'était ma retraite après 10 ans. Puis là, je m'installe à Montréal. Je venais juste d'acheter une maison. J'allais justement ce jour-là chercher les clés. Je vois une affiche et ça disait psychologie, mythologie, symbolisme.
Wow, ok, déjà en partant, ça rejoint des.
Juste ces trois mots-là ensemble, je disais, mythologie symbolique, je peux comprendre, mais avec psychologie, ouais, ok, surtout que bon, je suis déjà familier avec l'astrologie. Enfin, bon, des gens qui parlent un peu le même langage que moi, il y a peut-être intérêt à vraiment pas manquer ça, surtout que tout le reste, c'était pas du tout ça. Tout ce qu'on pouvait voir annoncé ou tout comme activité qu'on pouvait faire. Donc voilà, je suis allé au premier cours, et puis bon, c'était beaucoup mieux que ce que j'aurais pu m'attendre. Et puis depuis ce temps-là, j'apprends tous les jours.
Ah, donc, tu as débuté l'aventure, ce qu'on appelle l'aventure philosophique, de la philosophie appliquée, de ce qu'on fait ici et moi depuis 11 ans maintenant déjà. Et puis, c'est ce nouvel apprentissage, cette nouvelle connaissance qui rejoint, moi, ce que j'avais aussi comme intérêt. Psychologie et tout ça, et puis on rencontre une espèce de synthèse, mais plus. Donc, tu as pu joindre ton intérêt pour l'astrologie, la psychologie, et puis tu as pu relier aux civilisations anciennes avec ce qu'ils avaient comme connaissance aussi, parce que c'est pas d'hier, là, l'astrologie. Et puis, pour en venir, bon, on pourrait en parler longtemps, mais pour en venir à réinventer ton destin, ce qu'on peut se poser comme question, mais quel est. Parce qu'on peut avoir une perception encore aujourd'hui de l'astrologie un peu bonbon dans les journaux, qui est c'est pas une critique, mais l'idée c'est que ça peut être simplifié, pardon, à un point, ben, que finalement, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc on va beaucoup plus loin dans ce que tu nous présentes, et que on peut s'inspirer de ces grands mouvements pour trouver notre place et aussi. C'est pas ce qu'on pourrait penser comme ben, tout est déjà écrit. C'est plutôt il y a un potentiel. Est-ce qu'on nous on fait en sorte que ça se réalise ou qu'on peut aller vers? Est-ce que je me trompe en fait?
Oui, c'est ça. C'est bon, la vie a quand même sa complexité. Puis déjà, ma profession dans le militaire, c'était navigateur aérien. Et puis, je pense que j'ai gardé un peu ce réflexe de la boussole et du sextant, c'est de trouver son chemin, une capacité de se donner une direction dans la vie, mais qui est conforme aux repères qu'on peut se donner aussi et qui nous permettent de naviguer dans la vie. Donc, et c'est comme ça pour moi que ça a tout son sens vraiment pratique d'utiliser des repères, mettons, de l'astrologie pour parler de la prise en charge de son destin en tant qu'être humain. Et puis, que ce destin, en fait, c'est un potentiel. C'est des fois, on va se demander, bon, est-ce qu'on est prédestiné? C'est comme s'il y avait un double sens à ça. Il y a un côté où on pourrait dire prédestiné, comme si le chemin était déjà tracé. Et de l'autre côté, eh bien, tu fais ton destin. T'sais, on dit cogne aux portes du destin, puis provoque-le et les choses vont se passer. Puis ça aussi, c'est fondamental. Il n'y a rien qui se passe si tu attends qu'on te serve à la table. Alors, mais est-ce qu'il y a une prédestination pour certaines choses? Il y a certainement, en tout cas, des types psychologiques qu'on a, des tempéraments, des structures dans notre personnalité qui font qu'on va avoir certains talents, certaines capacités
Ouais, de base.
pour lesquelles on est plus apte. Puis je pense que tout le monde en a eu déjà l'expérience dans la vie que il y a des choses qui nous sont plus faciles et pour lesquelles on peut vraiment exceller. Il s'agit juste qu'on s'y discipline assez, mais on peut exceller. C'est jamais gratuit, il faut faire l'effort pour développer nos talents. Mais de l'autre côté, Il y a des choses dans lesquelles on n'excelle pas, qui sont vraiment difficiles. Par contre, pour lesquelles on va vraiment sentir qu'on se réalise. Et je pense que les deux sont importantes. Des fois, on tombe dans le piège de dire, ben, va vers ce quoi tu excelles, parce que ce sont tes forces. Et puis là où tu as des faiblesses, passe pas trop de temps à travailler là-dessus, parce que de toute façon, tu ne seras pas bon. Mais on pourrait prendre l'angle aussi où tu vas travailler sur tes faiblesses seulement pour devenir une personne globale, bien arrondie, et mettons acceptable, tu sais, sans faiblesse, comme si on pouvait se débarrasser totalement de nos faiblesses, mais sans développer tes forces puis tes talents. Alors, c'est les deux.
Et comme une combinaison
Oui.
de affirmer ou renforcer ou asseoir ce qui est déjà là, les forces qu'on a, comment je dirais, les intégrer ou on les intègre et puis c'est notre base. Et ensuite, pour développer autre
Ouais.
chose,
Et
développer nous.
ça, c'est dans une carte astrologique, on le voit par un axe qui s'appelle l'axe du dragon ou le nœud nord-nœud sud, qui sont la rencontre du plan orbital de la Lune et de celui de la Terre. Et puis, la Lune, bien, elle oscille en 19,3 années. C'est-à-dire que cet axe-là va tourner sur la carte pendant 19 ans. Et ça donne ça donne de l'information sur les côtés qui sont plus innés, les talents des gens en place, comme des acquis de la conscience, déjà dès la naissance, mais ils ne sont pas nécessairement intégrés si tu ne fais pas l'effort. Et puis de l'autre côté, là où tu vas avoir de la difficulté, où ça va vraiment être un grand défi, mais très satisfaisant si tu réussis. Ça, c'est exactement l'opposé. Donc, l'axe est là, et puis la conscience fonctionne comme ça, toujours entre deux opposés qu'on doit réussir à harmoniser.
Ouais, c'est vrai. C'est très intéressant et c'est logique quand on y pense. On n'est pas né de rien, dans le sens que oui, on vient, bon, biologiquement parlant, on s'entend, on a un héritage biologique des parents, mais il y a aussi d'autres niveaux qui sont bon, émotionnels, mentaux, t'sais, qu'on peut avoir de nos parents, mais des fois non. T'sais, des fois, ça n'a rien à voir, mais c'est d'autres plans qui peuvent être plus subtils, mais qui peuvent être influencés justement par ce qui est plus subtil, dont les axes ou des étoiles au loin, ben, les étoiles, les constellations, plus les planètes de notre système solaire, parce que souvent on confond, ou plutôt on confond, on prend comme si c'était vraiment les étoiles, mais c'est plus le système en soi qui est interagit en lui-même, comme une cellule, ben, tout ce qui compose la cellule a une influence sur le tout. C'est un peu cette idée-là où la mitochondrie dans la cellule, ben, si elle ne fonctionne pas bien, il y a une influence sur tout le reste. Et puis, c'est un peu la même idée, en fait, en astrologie.
Ben, on utilise en philosophie justement un mot, le macrobios, c'est qui est l'idée justement qu'à une échelle macro, une grande échelle, que la vie existe, mais que c'est pas obligé d'être une vie organique comme nous on a l'expérience, un corps fait d'eau et de carbone. Mais plutôt que le système solaire lui-même serait comme un être vivant. Et que ce n'est pas juste des petits points de planétoïdes et de planètes là, qui tournent autour du Soleil comme des petits points minuscules. Ce n'est pas que ça. Ça serait l'aspect physique. Et comme un atome, par exemple, on sait que dans les atomes, c'est juste pour faire une analogie avec la chimie. La largeur d'un atome au niveau chimique, de son interaction avec les autres, il y a un certain diamètre. Mais si tu veux voir vraiment, si on pouvait toucher, ça c'est le diamètre qui est dû aux électrons. Tu sais, donc c'est son volume, mais par rapport au champ électronique. Mais si tu veux voir l'atome, sa masse, d'où elle vient, ben c'est quelque part au centre, puis c'est 10 000 fois plus petit. Tellement petit que même si l'atome, je le tenais dans ma main, on ne le verrait pas le centre.
Puis le
Tu sais,
poids est là.
mais c'est la même chose. Pour un système solaire, puis les planètes, c'est que les objets physiques eux-mêmes sont extrêmement miniatures, mais ils ont un champ autour d'eux, qui, comme tu le décrivais tout à l'heure, de vitalité, d'émotion, de mental, si ce sont des êtres vivants. Déjà que le système solaire peut être considéré comme un être vivant, donc avec des fonctions aussi émotionnelles et mentales, qui ne sont pas besoin d'être situées dans un cerveau. Ça s'aligne très bien avec les dernières découvertes, quand même, qui datent maintenant de 10 ans, mais et d'un nouveau paradigme qui est post-matérialiste, où on reconnaît que la conscience est un élément du cosmos, au même titre que l'espace, le temps, l'énergie, mais indépendant, pas produit par cela. Et que peut-être que même tout cela, l'espace et le temps, est soutenu par un champ de conscience, qui est aussi très cohérent avec les équations de Schrödinger et les équations de la mécanique quantique, parce qu'il y a toujours cet élément de l'influence de l'observateur, qui est incontournable, ou du fait que des particules à grande distance peuvent s'influencer l'une l'autre, même si la vitesse de la lumière ne la permettrait pas. Donc, il y a un autre champ, au fond. Mais ça, c'est simplement, OK, peut-être pas prouvé scientifiquement, mettons, à 100%, mais au moins, ça nous donne un domaine de réflexion où c'est possible et où on rejoint les anciens. Qui, eux, n'avaient pas besoin de se casser la tête avec la physique moderne pour constater les relations que le cosmos, le système solaire et ses rythmes, donc sont comme des horloges du vivant, hein, le rythme de chaque planète. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'une planète comme... la Terre, elle fait un an pour faire le tour du Soleil, mais je ne vais pas toutes les nommer, mais si on prend Jupiter, c'est 12 ans.
Ouais.
Et puis, Saturne, c'est 28 ans. Et puis, on peut prendre même Uranus, 84 ans, qui correspond de façon intéressante à la durée d'une vie humaine. C'est-à-dire qu'elle fait un tour complet pendant la moyenne d'une vie humaine, si tu ne meurs pas de maladie avant 84 ans. Et ce n'est pas une limite, mais ça, ce qui est intéressant, c'est que tous ces chiffres, 84, 28, 12 sont des résonances harmoniques, comme en musique. Tout ça, c'est en harmonie, parce que 84 divisé par 28, c'est 3. Et divisé par 12, c'est 7.
Ouais.
Donc le 3, le 7, le 4,
bien.
Et le 28 divisé par 4, ça donne 7 aussi. Puis, tu ne trouvais pas curieux que tous les 7 ans, c'est facile de décrire le progrès de l'humain en termes, mettons, d'abord physique, biologique, en termes de maîtrise, hein, dans notre conscience de l'enfant. Jusqu'à 7 ans, tu maîtrises ta réalité physique.
Ouais,
jusqu'à même de façon rationnelle, on dit l'âge de raison à 7 ans. Mais après, de 7 à 14, c'est ta vitalité. Tu joues. 14 à 21, c'est ton émotion. Les transformations sont énormes au niveau émotionnel. Et les animaux n'ont pas ça, en passant. L'adolescence.
Ouais.
Et puis après, 21 à 28, tu t'intègres dans la société comme une personne responsable, donc c'est plus le mental rationnel.
Ce qu'on appelle la raison.
La capacité rationnelle de jouer ton rôle de citoyen responsable.
T'organiser, avoir un revenu, gérer ton...
C'est ça, ta stabilité.
Stabiliser la vie.
Mais c'est 28 ans, et là, c'est le temps que prend Saturne pour faire un tour, pour établir ça. Je fais ces parallèles parce qu'ils sont, ils sont puissants. Ils sont des modes... Et vous voyez comment après, si on va plus dans le détail, on peut faire des lectures.
Et ça, on le voit dans nos études comparées des philosophies d'Orient et d'Occident où ces connaissances-là ne sont pas d'hier et c'était connu de l'Égypte ancienne en passant par les Mayas.
C'est ça exactement.
Se reliait à ces idées de cycles. Sur des milliers d'années, des fois, on pense aux Mayas qui avaient leur calendrier sur des milliers d'années.
Tout à fait valide. Ouais.
Donc, ça nous ouvre un mystère. Il y avait, je pense, c'est Elena Petrovna Blavatsky qui disait que les mystères sont ceux de la perception, je pense.
Ouais.
Donc, la réalité reste la même, mais la façon qu'on perçoit la réalité change. C'est un peu le chemin initiatique, si on peut dire, le chemin philosophique, où on évolue dans un même milieu, mais les choses changent, on capte des choses, on voit, on sent des ambiances. Donc, c'est un peu... si j'en reviens à l'idée de réinventer ton destin, justement, c'est de prendre conscience, hein, d'abord, de ton terrain, de ton champ, si on veut, ton champ de pratique ou ton champ d'accomplissement.
Ben, tu vois, dans ce sens-là, on pourrait. Donc, ce que j'ai fait avec cette série, c'est que je me suis dit, on va pas faire les cartes astrologiques. Donc, en fait, on trouve pas nulle part dans les textes d'introduction ou de description des ateliers le mot astrologie, parce qu'on va pas faire la carte. Mais on va parler du zodiaque. Et le mot zodiaque, c'est en fait, ça représente un peu cette ceinture qui correspond à l'écliptique, bon, où finalement le soleil circule depuis son lever du soleil jusqu'au coucher, puis après de l'autre côté de la planète, mais à travers toujours les mêmes signes, les mêmes constellations stellaires, et de même la Lune, mais la Lune, elle a justement ce fameux plan-là de décalage, mais des fois elle passe au travers, en haut et en bas, et puis toutes les autres planètes. Donc, parce que les planètes tournent toutes comme sur un disque plat autour du Soleil, un peu comme les anneaux de Saturne. Et ça crée donc cette écliptique. Et là, donc, il y a eu. Bon, les astronomes vont dire on a 13 constellations, mais moi, celle du serpent et du scorpion, on peut les mettre ensemble. En plus, le symbolisme est assez proche, de toute façon. Mais c'est pas grave, parce que ce sont les constellations. Puis on voit aussi dans les ateliers d'introduction que je donne, l'explication, la différence entre ces fameuses 12 constellations et les 12 signes du zodiaque, qui sont tous les deux des zodiaques, donc deux zodiaques. Et le mot zodiaque, hein, vient veut dire animaux, zoo. Tu sais. Mais ce n'est pas que des
C'est
animaux, ce
intéressant.
n'est pas tous les signes qui sont des animaux, mais l'idée de l'animal derrière, ce qui est la constante, c'est qu'il y a des archétypes qui animent, parce que l'animal anime le monde, c'est le mouvement. Donc c'est des archétypes
Intéressant.
de mouvement, de comportement. Donc cette roue nous donne le terrain dont tu parles, tu vois, pour revenir à ce fameux terrain, et on l'expérimente tous. On est né à différents moments de l'année, oui, ça veut dire que si je suis né en novembre, avant le 21 novembre, ben, j'ai de bonnes chances d'être scorpion, parce que le soleil se trouvait dans le signe du scorpion, qui est le zodiaque, comment dire, on l'appelle tropique, ça veut dire qui correspond à un zodiaque saisonnier, qui commence au moment de l'équinoxe de printemps et va parcourir donc 12, c'est comme 12 divisions égales de 30 degrés, et ça, chaque signe va avoir la même séparation comme ça, et parce que c'est en fait un rythme comme une onde. Que tu peux diviser, tu sais, une onde qui peut être une onde pour faire le tour, ou diviser en deux, ou en trois, ou en quatre, comme des ondes de musique, comme une corne qu'on fera osciller à différentes fréquences. Alors, et donc, on va jusqu'à 12, parce que c'est comme 12 pas et 12 phases qui ont leurs énergies particulières. Et ça, c'est intéressant parce que les cultures, toutes les civilisations sont arrivées à ces mêmes divisions-là. Et à peu près aux mêmes explications de qu'est-ce que ces énergies veulent dire.
Ça, c'est fascinant parce
Oui.
que c'est vrai que dans plusieurs traditions, les signes sont sensiblement les mêmes, en fait. Comme tu le dis, la définition, leur énergie sont les mêmes. Et puis, on peut s'y relier, je trouvais, là, on est au printemps, équinoxe de printemps. Bien que physiquement, le soleil est placé, tu sais, l'équinoxe de printemps et d'automne, par exemple, c'est placé pareil, mais l'énergie, on peut facilement s'en rendre compte par nous-mêmes que c'est totalement différent au niveau physique. Donc, à d'autres niveaux, c'est la même chose à tous les moments de l'année où cette énergie change.
Oui, et puis il y en a même qui vont dire, ah ouais, mais l'hémisphère sud, c'est l'opposé. La dynamique, elle est même confirmée et complémentaire. C'est-à-dire que pendant qu'on a l'équinoxe de printemps ici, hein, l'équinoxe d'automne se passe en même temps sur l'autre, de l'autre côté. Et de toute façon, équinoxe, c'est une énergie intense, de tension intense. C'est un peu comme si un pendule se balance, puis l'équinoxe, au moment où le pendule est à son plus grande vitesse, au milieu. Puis le solstice, c'est quand la boule s'arrête du pendule, l'autre côté, là, il y a un arrêt temporaire. Puis là, ça repart. Puis même la position du soleil, si on le voit dans le ciel, ça forme un 8. Puis ça aussi de haut en bas comme ça. Bon, évidemment, en hiver, c'est en bas. Donc, il est plus bas sur l'horizon. Mais c'est que pour l'hémisphère sud, c'est l'opposé. Et ben oui, c'est l'énergie opposée. Et même si on dit, ah ouais, mais par exemple, le 21 mars qu'on vient de passer, ben pour eux, c'est le début de l'automne. Eh bien, c'est une énergie d'automne. On ne va pas dire, ah ouais, mais c'est le bélier, donc ça devrait être l'énergie du printemps.
Ouais.
Non, c'est l'axe bélier-balance qu'il faut le prendre ensemble. Et puis, pour eux, ben, même si c'est le 21 mars, le calendrier civil mondial, pour l'énergie, c'est la balance qui commence dans l'hémisphère sud. Puis donc, ce n'est pas contradictoire, c'est tout à fait fonctionnel.
Ouais. Puis par rapport à, justement, réellement, prendre ses bases.
Ça, c'est le terrain.
Oui, c'est ça, le terrain.
Puis on vit toutes les facettes des signes à tout moment. Comme tu disais, on le vit déjà par les saisons. Et puis, mais c'est le terrain. Et ce terrain, il est déjà énergétique. On en parle dans le sens, une capacité de sentir les différentes énergies selon les saisons, mais aussi émotionnel, puis même mental. Et puis, il peut y avoir, pour différentes personnes, plus grande force, une plus grande présence sur certains angles de ce mental. De la même manière que vous faites un test, tu fais un test psychométrique, mettons, basé sur Carl Jung.
Quatre types de personnalités.
C'est ça, ben, c'est les quatre tempéraments, mais qui étaient connus hein, des anciens en médecine. En ancienne Grèce, 600 ans avant Jésus-Christ, puis bien avant, même 1000 ans avant Jésus-Christ. Bon, mais lui, il a confirmé que ça existe bien, puis on peut même aller jusqu'à 8, puis 16, tu sais, dans les divisions des polarités, toujours basé sur... La vie est basée sur des polarités. Alors, et c'est intéressant, parce que ça, c'est très cohérent avec la vision orientale, chinoise, du I Ching, ou encore là, c'est 2, 4, 8, 16, jusqu'à 64, les nombres de symboles qui définissent le I Ching.
OK.
Tout est là. Tout est basé sur des polarités et puis les différentes énergies qui correspondent. Donc, on est familier déjà avec ça, sauf que ce qui est particulier, c'est que si on... Mettons qu'on vit on va utiliser le mot crise, donc qui implique des remises en question ou des épreuves, des difficultés.
Comme on vit un peu aujourd'hui, je fais une parenthèse, mais est-ce que ce qu'on vit aujourd'hui, regardant les zodiaques ou les as, est-ce qu'on pouvait voir quelque chose en lien avec ça? Je fais une parenthèse là, sur ce qu'on disait.
OK. Oui, parce que c'est sûr qu'au niveau individuel...
On peut se poser la question, mais on vit collectivement une crise très importante aujourd'hui, une crise sanitaire, mais aussi une crise sociale, une crise économique, bon, qui est encore latente, mais on le sent qu'elle est là. Crise à plusieurs niveaux, donc est-ce que c'est... Ça peut se voir, justement.
Bon,
ce serait vaste comme question, peut-être.
Malheureusement, c'est très visible.
OK.
C'est que, en fait, si on avait appris à lire, si ça faisait plus partie de notre culture, que cette science qu'on pourrait qualifier d'ésotérique, et qui est ésotérique dans le sens... Même Carl Jung le disait, j'aimerais ça d'abord situer ça, qu'on pourrait représenter le champ de conscience de l'humain, parce que bon, on a une expérience consciente dans la vie, puis tu mentionnais tout à l'heure que c'est les perceptions, c'est les perspectives, perception et perspective, deux mots intéressants qui sont reliés, parce qu'on peut changer de perspective sur les choses, et ça mène un changement de nos comportements, donc un changement dans le monde. Le fondateur de Nouvelle Acropole parle de ça, il dit « Essayez pas de changer le monde, changez d'abord votre perspective du monde. Et puis là, les changements que vous voulez vont apparaître. »
Oui, c'est un changement, c'est-à-dire de voir les choses. Ça me fait penser à un commentaire, je ne me souviens plus d'où il vient, c'est dans le sens de se concentrer, non pas sur les problèmes, mais sur les solutions qu'on veut apporter.
Bon.
On change le focus vers...
Par exemple. Puis quand tu penses aux solutions, ben, tu as encore les problèmes à résoudre, mais ils deviennent beaucoup plus petits parce que de toute façon, en mode solution, on mobilise une énergie créative.
Ouais.
Alors qu'en mode problème, c'est plus une énergie de...
On colle
de
à la
compensation.
Situation, si on veut.
On colle, exactement. Et ça, c'est une dynamique où notre culture, notre éducation, puis ça fait un bond depuis les années 70, là, depuis qu'il n'y a plus le cours classique et tout ça, donc finalement, c'est presque tout le monde qui est pris là-dedans. On nous a appris à réfléchir d'une façon réactive à tout.
Mm-hmm.
Même que la philosophie enseignée généralement à l'école, ça va être, tu regardes le curriculum, c'est sens critique. Ah oui, c'est bon de développer le sens critique. Je suis tout à fait d'accord, il faut avoir du discernement. Mais c'est traduit par la critique.
Oui, c'est ça.
C'est plus le sens critique. C'est, par exemple, comment on expose les différentes religions ou philosophies, encore dans les cours à l'école, qui sont les cours d'histoire et tout ça, d'humanité, puis du. On va comparer. Ah oui, tel philosophe, et puis lui. Selon vous, est-ce que c'est cohérent, est-ce que c'est encore applicable par rapport à nous, notre perspective actuelle, plutôt que de se mettre à la place du penseur, puis de commencer à penser comme il pensait, puis d'essayer d'avoir sa perspective du monde.
Mm-hmm.
Non, on va toujours rester à l'extérieur, comme sur la clôture, là, et puis on va juger. Et bon, pas bon, je comprends pas. Si je comprends pas, c'est sûrement pas bon.
C'est ça, on est tombé dans une... Développement de l'esprit critique, mais de critiquer ce que je pense pas comme moi. Dès que c'est en dehors de ce que je pense, je critique, mais si ça va dans ce que je pense,
alors,
ben, je critique pas, ben, c'est vrai, ça doit être vrai.
Alors ça, c'est le mode mental, plat. On appelle ça l'intellectualisme.
Ouais.
C'est un mode plat où il n'y a pas de profondeur. Donc, il n'y a pas de place pour l'ésotérisme.
Mm-hmm.
Le mot ésotérisme, puis Carl Jung, qui est un psychologue... vraiment important, qui était même dans la pratique de la psychanalyse, mais le complément, ce que Freud faisait, lui faisait tout le contraire.
Ouais.
il apportait le côté plus néoplatonique de la psychanalyse, ou du moins sur la psyché humaine. Il a parlé des archétypes et de la conscience collective, et de l'inconscient collectif aussi, où se trouvent ses forces, qui sont... auquel il a utilisé un langage, il parle des ombres. En chacun de nous, il y a une zone d'ombre. Alors, ça, c'est pas compliqué, c'est parce qu'il y a une zone de lumière aussi. Et puis, on a comme le soleil intérieur qui éclaire notre ego. Puis l'ego, c'est comme la terre. Alors, le soleil éclaire la terre, puis toi, tu es sur terre, puis tu te vois vivre. Alors, ça, c'est la conscience attentive quand tu es réveillé. Mais... parce qu'il y a une partie d'éclairée, donc il y a toute une partie qui n'est pas éclairée. Elle ne peut pas être exclue. Elle est là, et elle est réelle. Mais donc, il va dire, ah, c'est l'ombre.
Ben ouais,
ça nous ramène à ce qu'on disait, les choses qui sont plus innées, où tu as déjà tes forces, où ta conscience, elle va coller plus. Puis tu as toute la dimension, qui c'est pas facile, mais si tu le conquiers, ce qui n'est pas facile, tu vas chercher un complément.
Tu expands la lumière.
Oui, ça t'élargit tes horizons de beaucoup.
Et voir tes ressources,
ouais.
Auxquelles tu n'aurais pas pensé ou que tu n'avais pas vu.
Et ça va te permettre de te relier, grâce à ces nouvelles ressources puis ces nouveaux horizons, à d'autres perspectives, sans être en conflit avec eux.
Mm.
En opposition ou en incompréhension.
Ouais, ouais.
Parce que tes horizons étant plus larges, mais plus 360 degrés, parce que tu vas chercher toute la partie de l'ombre, mais là, tu peux avoir une empathie, une compassion, une compréhension d'un point de vue complètement opposé à celui que tu privilégies à n'importe quel moment.
Ouais,
et là, tu vois la valeur de nos différences.
Mais c'est là où, réinvente ton destin, c'est justement là, de réinventer son destin, mais c'est de le voir, de le percevoir. Donc, c'est comme de découvrir tes forces pour réinventer, c'est-à-dire voir vers où je veux aller, vers où, qu'est-ce que je veux créer, qui je veux être. Et l'actualiser d'une certaine façon.
Oui, alors ça implique de reprendre en charge ton destin. Mais est-ce qu'on a un destin déjà à prendre en charge? Ou, moi je poserai la question à n'importe qui. Est-ce que on n'a pas des rêves déjà?
Mm-hmm.
Est-ce qu'on avance dans la vie sans rêve? Alors ça c'est intéressant parce qu'en fait, beaucoup vont répondre oui de nos jours. Et même peut-être avec, je reviendrai sur la question de la crise collective tout à l'heure, mais au niveau, même justement depuis un an qu'on est confiné, il y a plusieurs entreprises qui ont été affectées au point où ils sont sur l'arrêt et incapables de planifier l'avenir s'ils ne se sont pas redéfinis pour une relance différente, autre, ou voir un avantage dans cette situation pour se repolariser,
Se réinventer.
Se réinventer. Ben, tu sais, je parle d'entreprise, parce que c'est pour la société, on en dépend, mais même les individus. Les employés, de toute façon, une entreprise, que ce soit une organisation ou un centre d'affaires, ou même une organisation humaine, à but non lucratif ou à but lucratif, peu importe, ce sont des regroupements sociaux faits d'individus. Et puis, n'importe quelle réinvention va partir de l'individu qui a réussi à changer de perspective.
Exact. C'est pas le système, mais c'est vraiment l'humain qui
C'est ça.
change.
Mais beaucoup, malheureusement, sont en état de paralysie. Pourquoi? Ah, parce que on ne sait pas, là. On espère, on attend que ça revienne à la normale. Mais là, on repousse, on sait pas, on espère que la normale, ça va être finalement dans 6 mois. Mais on m'avait dit que c'était il y a 6 mois, ça aurait dû être la normale. Je comprends plus. Puis je suis encore plus paralysé. Ben, cet état-là, il n'y aura pas de place pour une profondeur ou rencontrer ses forces.
D'accepter la situation comme elle est
C'est ça.
et vivre avec, l'habiller
Là, c'est la soumission, là. Et là, on perd la conscience humaine dans cet état-là. Alors, moi, je lance un défi à tout le monde, hein, tu sais, où justement, collectivement, on est appelé à se remettre en question. Parlons un peu de cet aspect collectif. Comment on aurait pu le voir venir. Il y a plusieurs échelles de temps. C'est ça qui est beau, c'est qu'il faut voir les cycles. J'ai parlé tout à l'heure de 84 ans pour une vie, ou même les 28 ans, puis les 4 fois 7 pour les 7 ans, de nos transformations biologiques quand on grandit comme adulte. Mais à l'échelle de l'humanité, on a aussi des phases de 2000 ans. Qui correspondent on appelle ça des ères. Et puis, vous avez dû entendre parler des fois de l'ère du Verseau. Mais en fait, on n'est pas encore tout à fait dans l'ère du Verseau. On est à la porte, on a des effluves, on sent qu'il y a une dynamique mondiale quand même qui est spéciale. Je veux dire,
Qui change, qui se
dans l'histoire de
transforme.
l'humanité, mettons des 8 000 dernières années, c'est quand même unique qu'on soit 8 milliards de personnes sur la Terre. C'est comme un grand rendez-vous, pourquoi au juste? Bon, mais on est à la fin de l'ère du poisson. Puis c'est une ère de 2160 ans qui est justement un douzième, hein, un signe d'un cycle de à peu près 26 000 ans. Et qui correspond à la rotation de la Terre, puis l'axe
C'est
d'inclinaison de la Terre,
le ouais.
ben comme une toupie, en 26 000 ans,
C'est la précession des
c'est la
équinoxes.
précession des équinoxes, entre autres. Puis c'est justement cet équinoxe qui se trouve toujours maintenant dans la constellation du Poisson et qui sera dans la constellation du Verseau dans quand même 100 ans. Mais on y est proche, on est à la bordure.
Comme un cycle est fini, mais il y a toujours un croisement au début et à
C'est
la fin
ça.
d'un cycle.
Mais la fin du cycle du poisson, la signification du poisson, puis ça, je l'ai développé dans le dernier atelier, qui était justement le 7 mars, on l'a fait. Le sens du poisson, c'est la force de la dissolution. Et puis c'est intéressant parce que c'est relié aussi à l'axe de la Vierge. Donc, poisson, vierge, parce que là encore, il faut toujours parler un peu des deux. Et puis, cette vierge-là, c'est aussi un signe juste avant l'automne, juste avant l'équinoxe d'automne. Puis, lui, c'est juste, poisson, c'est juste avant l'équinoxe de printemps. Donc, on sait qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Même en automne, les choses se dissolvent, mais c'est une purification, c'est un allègement.
Ce qui est plus utilisé doit être dissous, doit
Faire de
être
la place, puis ça va être après place à l'hiver aussi, à la peau, au repos nécessaire. Mais pour le poisson, c'est l'eau qui dissout, mais qui peut être compris comme la graine qui va éclater dans la terre pour que la pousse La pousse du bélier, le signe qui suit,
Lui qui
sorte
est
finalement.
comme qui fonce.
C'est ça. Mais il a fallu donc mourir.
Ouais.
Donc dissoudre la graine,
La
la
coquille,
coquille, ou l'œuf, la coquille d'œuf qui craque pour que le poussin sorte.
ouais.
Des fois, il n'y a rien qui sort, c'est un avortement, c'est un jaune d'œuf pourri, bon.
Ouais.
Mais d'autres fois, c'est vraiment un poussin.
La vie, une
Mais
nouvelle
il ne
vie
peut pas
qui.
rester dans son œuf. Et c'est vraiment ça le symbole de la fin du poisson. Et on est dans une phase comme ça. Donc, en tant qu'humanité, il y a des processus de fin, de forme qui ne servent plus, qui nous ont servi dans une phase de gestation, tu sais,
Ouais.
par rapport à quelque chose de nouveau qui attend. Tu sais, de quelque chose de nouveau qui attend de naître. C'est comme donc une renaissance, mais qui doit passer par une rénovation, une réinvention, réinvente-toi,
Ouais.
qui se fait dans un esprit, bon, que je vais parler après, mais plus de Verseau, mais de rénovation vraiment, et qui va permettre la renaissance en bélier. Et puis, là, ça se trouve être un peu le thème en ce moment, Neptune est en poisson, et puis l'ère du poisson, on est à la fin, donc
Ouais.
ça, c'est lourd, et là, il y a toutes des grosses planètes qui arrivent là en poisson. Mais juste avant, 2020,
Ouais.
qu'est-ce qui se passait? Parce que c'est une année particulière, hein, charnière, ça se passait en Capricorne et en Verseau. Puis bon, ça c'est des mouvements plus rapides, là, c'est pas 2000 ans. On est dans des cycles qui sont plutôt des cycles, on va dire, de 50 ans. Là, ouais, c'est ça.
Capricorne et Verseau,
Oui,
qu'est-ce que
ben, dans ces signes-là, il se trouve des planètes en transit,
vous dites?
en déplacement, mais qui ont un pattern, une configuration qu'on retrouvait déjà dans les années 68, 70,
Oui,
65 à 70.
il y a des gros mouvements aussi
C'est ça,
de
on.
société.
Ouais. Et qui, bon, les choses non résolues nous reviennent et qu'on doit y faire face de nouveau. Puis ça, c'est régulier. Il y a aussi un pattern qui se trouvait justement à la fin de la Première Guerre mondiale. Un autre pattern très fort qui est très. Là, qui est une signature entre Uranus et Saturne, qu'on retrouve beaucoup plus rarement, mais qui était là 1928 à 1935.
OK, ouais,
Donc
la crise.
la crise économique, pas vraiment 1929, le pattern 1929 et puis 2020, c'est le même pour
OK.
Saturne-Uranus.
Ah,
Et dans les
intéressant.
mêmes signes, et puis dans le même angle. Et donc, encore chose non résolue de cette époque, une fragilité, je dirais,
Intéressant.
comme si c'était une perte de confiance collective les uns des autres.
Qui s'est passé dans les années
Ouais,
29,
et
première
qui on
crise.
vit encore. C'est un angle où
Ouais.
ça vient avec une perte de confiance, mais pas parce que on est influencé par les astres.
Ouais.
C'est parce que dans ce rythme, un peu comme c'est pas
Une
juste des saisons d'un an,
respiration, ouais.
mais là, c'est des saisons selon chaque cycle, chaque combinaison planétaire donne ses périodes de musique. Et pourquoi on est dans la suspicion de l'un de l'autre, la perte de confiance, la distanciation, c'est le mot qui va
Ouais,
représenter le
qui
mieux ça.
revient beaucoup.
Et puis confine-toi parce que je te fais
On fait pas confiance, ouais, c'est ça.
pester. Et puis, ah oui, mais c'est pour l'intérêt. Bon, en tout cas, on ne va pas partir sur des critiques ici.
Ouais,
Mais
le point, c'est ça, c'est que dans les astres, on voit des similarités.
des similarités, mais parce qu'on n'a pas. C'est l'appel à développer une vertu. C'est l'opportunité de développer une vertu dans cette phase-là. Il y a une leçon.
Quelque chose qui revient,
Oui.
qu'on peut voir, ben, la forme est différente, mais l'énergie est la même
C'est ça.
dans
Et
ces idées-là.
puis, que notre état de conscience collectif, il n'a pas la maturité pour assumer cette énergie, cette tension, qui normalement est comme une épreuve qui devrait nous éveiller à une force, à une ombre. Alors, mettons qu'on l'appliquerait comme une expérience individuelle, parce que ça ne peut qu'être résolu par des individus,
Ouais, que tout le monde, ouais.
autant. Donc tout le monde est mis à l'épreuve de toute façon. Hein. Le confinement, c'est pas
Ouais,
drôle.
personne ne le vit pas, en fait, d'une certaine
Mais
façon.
il y en a beaucoup qui le vivent comme ça les amène à la dépression, alors que ça pourrait nous amener vers ce que je vais maintenant introduire, la voie du héros, que Joseph Campbell, quand il reprend les éléments de Carl Jung sur les archétypes collectifs, de l'inconscient collectif, il voit ce sens du héros dans la mythologie qu'on retrouve partout. Et puis, l'héroïsme, ce n'est pas juste des actes, mettons, de bravoure et tout ça. Il y a un élément dans être héros qui est un élément de leadership, un élément de service à plus grand que soi, un élément donc d'altruisme, de dépassement de soi, mais aussi justement un service qui va être à son potentiel plus grand, mais un potentiel plus grand qui nous inspire parce que il peut être utile pour les autres. Donc, une générosité qui peut découler de cet héroïsme. Puis on le sait, quand on voit un acte de bravoure, d'héroïsme, c'est le courage, ben c'est le cœur. Le mot courage veut dire, voilà, ça vient de ton cœur, puis tu vas aider l'autre. Même si tu prends des risques calculés, puis que tu as peur, c'est pas téméraire. Le héros, il n'est pas téméraire. Il n'est pas opportuniste non
C'est une
plus.
aventure, bien.
Alors, là, on regarde dans l'histoire de l'humanité, il y a plein de thèmes sur l'héroïsme. Par exemple, on peut prendre le héros Héraclès ou Hercule, t'sais? Et
Arjuna
les 12
et
travaux
ouais,
d'Héraclès et de Hercule.
12, c'est les astres, encore une fois.
Tu prends une autre culture comme plutôt Perse et tous ceux qui les ont précédés avant dans cette région du monde qui est l'Iran aujourd'hui, et on parle
Gilgamesh aussi.
des 12 travaux de Gilgamesh.
Ouais.
Et là aussi, c'est les 12. Et puis, et c'est un héros. Dans quel sens du héros? Ben, c'est un être humain avec ses limites, mais qui va, par cette persévérance, cette constance, être guidé par une foi, qui a quelque chose, un appel, une réalité plus grande, et qui va finalement le mettre en contact avec le divin, avec son âme, mais qui n'est pas mortelle. Donc, il est prêt à faire face à la mort. C'est pour ça que quand on parlait du poisson tout à
Ouais.
l'heure, la dissolution, c'est
Face à la
mourir.
mort.
C'est le 12e signe.
Une partie
À la fin
meurt.
d'un cycle, le 12, tu as le 1. Donc, il faut que quelque chose meure pour faire place au nouveau. Puis même donner naissance. Quand la femme est à la fin de sa gestation, au bout du 9e mois,
Il y a des os.
ben, on
On
brise
brise
les
les
os.
os.
On sort du poisson pour rentrer dans le bélier, le bébé qui crie, qui pleure,
Qui
qui fonce.
sort.
Ben oui, comme un bélier, allez. Ben, ouais, donc, c'est pas, on appelle ça une naissance, mais en même temps, c'est une mort de la
D'un
période de
état à un autre
gestation.
état, exactement.
Exactement. Et puis, quand on va mourir, ça va être un peu la même chose par rapport à une naissance dans une autre dimension. Donc, ça, c'est écouter des EMI si on veut en savoir plus. Mais alors, c'est le chemin, la voie du héros. Qui va être cet esprit d'aller, plutôt que de vivre, être écrasé par un état qui nous dépasse, qu'on ne comprend pas, qui nous fait peur, dans lequel finalement on est paralysé par la peur, ou l'incompréhension de qu'est-ce qu'on pourrait faire, et de perdre nos repères surtout, c'est ça qui se passe, on est désorienté, c'est ça qui se passe pour tout le monde, eh bien là, c'est peut-être. C'est l'occasion d'aller rentrer à l'intérieur. Ce qui implique qu'est-ce qu'on veut dire par intérieur? Ben Carl Jung le disait, puis il n'est pas le premier. Ça fait partie des enseignements de sagesse à travers l'histoire. Tout être humain a une vie intérieure et une vie extérieure. Alors, waouh, c'est pas la même chose. La vie intérieure, c'est pas juste ton émotion. Mais non. En fait, les émotions, c'est la vie extérieure. Parce que
La
ça te relie
réaction.
à ton environnement. Mais non, la vie intérieure, c'est un peu cet observateur intérieur silencieux, mais qui lui aussi peut se développer, être aussi riche et articulé et organisé que le monde extérieur dans lequel on vit, mais qui n'est pas, mettons, une égalité, c'est un complément de l'autre. C'est-à-dire que
L'union qu'on cherche.
c'est ça, donc on a la possibilité, si tu as une vie intérieure, justement de rencontrer la dimension de l'ombre qui n'est pas éclairée par l'ego. Le soleil qui éclaire l'ego, mais qui est plutôt l'envers. Et comme l'envers, par exemple, d'un tapis qui a des belles structures géométriques, ben, tu regardes des fois l'envers, puis ce n'est pas nécessairement la même structure
Non, c'est
pour que
carrément
les
différent,
fils
l'inverse.
recréent. C'est un inverse, mais avec un autre pattern. Donc, ce n'est pas une copie-collée. La vie intérieure n'est pas le copier-coller de l'extérieur.
Ouais, c'est bien intéressant tout ça.
C'est ça.
Ben écoute, on pourrait en parler encore longtemps. Je
Ben
pense
oui.
qu'on a beaucoup de. Et on, je pense qu'on refera une autre interview comme ça. Fait que je vais te remercier d'avoir accepté mon invitation. Et puis,
C'est un plaisir, Michel.
il y aura l'occasion de t'écouter encore plus dans la série Réinvente ton destin. On
Oui.
peut en parler en même temps. Et puis, elle sera publiée avec cette entrevue et le podcast qui sera fait. Et puis. Donc, on peut s'inscrire et puis écouter les anciens épisodes.
Très bien.
Merci beaucoup.
Merci à toi, Michel. À bientôt.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez en savoir plus sur la série Réinvente ton destin avec Pierre Lemasson en visitant le site montréal.acropole.ca/12clés. 12 en chiffres. Donc, Montréal. acropole.ca/12clés. Vous pourrez vous inscrire pour les prochains ateliers ou bien commander les épisodes passés. Nouvelle Acropole est une organisation à but non lucratif, présente dans plus de 60 pays à travers le monde. Vous pouvez nous appuyer en faisant un don ponctuel à montréal.acropole.ca/contribuer.